trop bien.
C'est pas du vent. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, nous vivons dans un monde en profonde mutation. La dégradation des terres a atteint un seuil critique. La biodiversité disparaît à une vitesse jamais égalée. Le changement climatique et ses conséquences s'accélèrent. Les ressources naturelles diminuent. Face à ce constat, l'humanité doit prendre conscience de la gravité des défis qu'elle va devoir affronter au cours de ce siècle. Courons-nous vers la catastrophe? Notre invité est le chef économiste de l'Agence française de développement. Il est aussi prêtre, jésuite, docteur en mathématiques et directeur de recherche au CNRS. Autant de casquettes qui en font un observateur avisé du monde qui nous entoure. Un regard précieux et ce sera à vous de juger, mais certainement inspirant.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Gaël Giraud.
Bonjour.
Vous auriez pu être trader à New York, mais c'est votre expérience auprès des enfants de la rue dans la ville de Sarre, au sud du Tchad, qui va inspirer finalement le reste de votre vie.
Oui, c'est vrai. On m'a fait cette proposition à un moment où j'étais ce qu'on appelle quant, c'est-à-dire ingénieur quantitatif, c'est-à-dire le gars qui fait des maths pour les traders. Et on m'a envoyé dans une mission à New York pour faire de la mise à niveau en maths pour les traders new-yorkais. Et puis apparemment, ça marchait suffisamment bien pour que le chef de la salle me propose un poste de trader. Et j'ai mis 10 minutes à me dire que j'allais dire non. Et ce qui m'a aidé, c'est l'expérience des enfants de la rue au Tchad. J'ai eu la chance de pouvoir vivre 2 ans avec eux dans la ville de Sarre et de monter un centre d'accueil pour eux qui existe toujours aujourd'hui, 20 ans après. Et je crois que ce sont eux qui m'ont donné la ressource pour dire non. C'est-à-dire, ils m'ont fait faire l'expérience d'une joie profonde dans un contexte de très très grande pauvreté. Et donc j'ai fait avec eux l'expérience qu'on peut être très heureux en n'ayant rien. Et donc on n'a pas besoin d'être trader à Manhattan pour être heureux.
Et ça a conditionné donc de nombreux choix dans votre vie par la suite.
Oui, ça a joué un rôle assez fort, je dois le reconnaître, dans le fait que je sois entré dans la Compagnie de Jésus, donc chez les jésuites. C'est une question que je me posais déjà avant de les avoir rencontrés, mais c'est sûr qu'ils ont confirmé quelque chose de fondamental.
Et depuis 2015, vous êtes chef économiste à l'Agence française de développement. Vous auriez pu choisir de vous investir dans une ONG. Pourquoi l'AFD, qui est quand même une banque de développement, un gros organisme?
Oui, mais c'est un organisme extraordinaire parce que les collègues qui travaillent à l'AFD ont à la fois la compétence de professionnels de la banque, qui sont tous les jours sollicités pour juger de la qualité des projets qu'ils financent, qui ont donc besoin d'une vraie connaissance de terrain, et le militantisme des activistes d'une ONG. C'est-à-dire qu'ils croient, ils ont une recherche de sens. Une bonne partie d'entre eux veut vraiment sauver le monde. Et donc ça fait un mélange qui est magnifique. Je ne connais pas d'autres institutions où on ait le tel mélange aujourd'hui.
Donc aujourd'hui, pour vous, c'est le bon endroit pour concilier vos convictions de prêtre et d'économiste?
Oui, c'est un endroit où on peut se poser des questions de justice, vraiment, en particulier vis-à-vis de la question environnementale, des justices climatiques, et en même temps mettre en œuvre une analyse économique de fond sur les grands déséquilibres macroéconomiques de la planète, comment on finance la transition, toutes ces questions qui exigent pas mal de technicité.
Question dont nous allons parler. Alors je le disais en introduction, c'est vrai que aujourd'hui l'humanité doit faire face à des défis inédits. C'est un peu l'heure de l'addition de la révolution industrielle.
Oui, absolument. Ça fait 2 siècles maintenant qu'on vit dans un modèle très très carboné, dont nous savons maintenant, alors on savait déjà depuis quelques décennies, mais ça devient de plus en plus clair aujourd'hui, que ce modèle n'est pas viable, n'est pas durable, détruit les écosystèmes naturels. Nous avons déjà malheureusement commencé ce processus de destruction. Donc aujourd'hui, le défi qui est devant nous, c'est d'arrêter la prédation, à la fois en termes d'émissions de gaz, l'acidification des océans, tout ça, les nanoparticules de plastique. Bon, il faut arrêter ça. Donc là, il y a un deuil à faire d'un certain imaginaire d'une société industrialiste, productiviste. Et puis, dans le même temps, il faut apprendre à s'adapter aux conséquences du dérèglement qui sont déjà là, à la destruction de la biodiversité qui est déjà en cours. Donc les populations du Sud, aujourd'hui, doivent apprendre à vivre complètement différemment, à faire une agriculture nouvelle qui s'adapte à un contexte qu'on n'a jamais connu précédemment.
Alors j'ai envie de vous lire quelques lignes. Si les tendances de croissance présentes dans la population du monde, l'industrialisation, la pollution, la production de nourriture et l'épuisement des ressources restent inchangées, les limites à la croissance sur cette planète seront atteintes un jour ou l'autre dans les 100 prochaines années. Le résultat le plus probable sera une baisse plutôt soudaine et incontrôlable, tant de la population que de la capacité industrielle. C'est un peu ce que vous venez de dire.
Oui, ça, c'est dans le rapport de Rome, non, je pense.
Voilà, c'est le rapport Meadows, 1972, ça date d'il y a 46 ans.
Tout à fait. Et malheureusement, le rapport Meadows, qui est un texte absolument remarquable, je ne peux que vous encourager à en lire la version mise à jour en 2004, préfacée par Jean-Marc Jancovici, ce rapport a été complètement ignoré par les économistes, pour la plupart d'entre eux, alors qu'il contenait des éléments d'information fondamentaux. Heureusement, il y a un physicien australien, Graham Turner, qui en 2008 a essayé de, comme on dit en anglais, backtester les prospectives de Meadows. C'est-à-dire qu'il a regardé les projections de Meadows et il les a comparées avec ce qui s'est vraiment passé entre 72 et 2008. Sur les 10 scénarios de Meadows, il y en avait 2 qui conduisent à des catastrophes d'ampleur mondiale au XXIe siècle. Et il y en a 8 qui concluent au fait qu'on peut réussir à traverser les enjeux écologiques. Malheureusement, c'est les 2 premiers qui collent parfaitement avec la trajectoire suivie par la planète entre 72 et 2008. Et donc, vraisemblablement, on est engagé vers des catastrophes d'ampleur planétaire, oui.
Alors, l'une des limites physiques à laquelle nous ne pouvons plus échapper, c'est ce que l'on appelle le pic pétrolier. Je vous propose d'écouter l'explication de ce phénomène par Mathieu Ozano. Il dirige le Shift Project, un think tank qui réfléchit à une économie post-carbone.
On peut dire que c'est le point à partir duquel, le point historique, à partir duquel l'offre de pétrole, les extractions mondiales de pétrole vont stagner, décliner, ou en tout cas ne pas suffire à répondre à la demande de pétrole qui, elle, croît. Voilà, c'est le point de décrochage. Jusqu'à présent, donc, croissance économique et croissance de la production mondiale sont allées de pair. On a un parallélisme quasi absolu entre la croissance économique d'une part et la croissance de la production pétrolière. Aujourd'hui, ou en tout cas dans les prochaines années, il est vraisemblable qu'on ait un décrochage entre, d'une part, cette demande de pétrole et la production globale du pétrole conventionnel et de toutes les autres formes alternatives de pétrole.
Mais alors, on dit qu'on aurait dépassé le pic pétrolier depuis 2006.
On a dépassé le pic pétrolier de pétrole conventionnel. Qu'est-ce qu'on entend par pétrole conventionnel ? C'est le pétrole classique, liquide. Aujourd'hui, cette production de pétrole conventionnel a piqué, a dépassé son maximum historique, c'est maintenant officiel. Et ce que dit l'AIE, ce que dit l'Agence internationale de l'énergie, qui est la source de référence sur ces questions-là, c'est que, au mieux, cette production de pétrole conventionnel pourra s'établir sur un plateau, c'est-à-dire qu'elle ne pourra plus jamais augmenter.
Gaël Giraud, vous partagez ce constat de Mathieu Ozano ?
Oui, tout à fait, il a raison. Et c'est un constat d'ailleurs qui est partagé par toute la communauté scientifique. Il n'y a plus de débat aujourd'hui sur la réalité du pic conventionnel. Et on plafonne aujourd'hui à 87 millions de barils jour. Ce qui permet de produire plus, ce sont les techniques non conventionnelles, c'est-à-dire la fracturation hydraulique de la roche, notamment. Maintenant, vous avez un deuxième aspect du débat qui est pour quand est le pic non conventionnel ? C'est-à-dire, on sait que forcément il y en a un, puisqu'il y a une quantité limitée de pétrole sur la planète. Par contre, il y a un débat sur la date à laquelle on va atteindre ce maximum, toutes techniques confondues. Vous avez 2 tribus parmi les ingénieurs pétroliers aujourd'hui. L'une qui dit c'est pour la décennie 2020, l'autre qui dit c'est pour la décennie 2060. Il n'empêche que quelqu'un comme le PDG Patrick Pouyanné de Total a récemment donné une interview dans Le Monde dans laquelle il disait, à mots même pas couverts, le pic toutes techniques confondues, c'est pour la décennie 2020. Donc il est vraisemblable que ce soit dans les 15 années qui viennent.
Alors la fin du pétrole accessible et pas cher, couplée au changement climatique et à une forte pression démographique, c'est une équation complexe à résoudre.
Oui, ça va être une équation explosive. Alors d'un côté, c'est une bonne nouvelle, au sens où nous n'aurons plus assez de pétrole pour continuer de détruire la planète, ou en tout cas on n'arrivera pas à augmenter la quantité de pétrole qu'on sortira du sous-sol. Malheureusement, il reste encore tellement de pétrole par ailleurs que ça ne va pas suffire à nous rendre sages vis-à-vis du climat. Donc de toutes les manières, il y a un vrai apprentissage de la sobriété à mettre en œuvre. Mais la grande difficulté, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas faire de la croissance du PIB sans augmenter la quantité de pétrole que nous consommons. On a fait des légers progrès au niveau mondial dans les années 80, suite aux 2 chocs pétroliers des années 70. Mais depuis les années 80, au fond, l'industrie mondiale s'est reposée sur ses lauriers, a fait très peu de gains en termes d'efficacité énergétique dans l'usage du pétrole, et on continue de dépendre énormément du pétrole pour tout ce qui concerne la mobilité. Donc la grande question, c'est comment fait-on à partir, admettons que ce soit le milieu des années 2020, pour continuer à faire voler nos avions, rouler nos chars et nos voitures, dans un monde où on va être de plus en plus nombreux, d'après le scénario médian de l'ONU, on sera 9 milliards en 2050, et on n'arrivera plus à augmenter la quantité de pétrole. Évidemment, ça va être une incitation très forte à accélérer la transition énergétique vers les énergies renouvelables, il est vraisemblable que le prix du pétrole explose sur les marchés, à ceci près que le prix du pétrole aujourd'hui, malheureusement, n'est plus dicté par l'offre et la demande réelle de pétrole, mais par les mouvements de capitaux sur les actifs financiers dérivés sur le pétrole. La financiarisation du prix du pétrole fait que, malheureusement, aujourd'hui, le prix du pétrole qu'on observe sur les marchés ne traduit plus la raréfaction physique du pétrole par rapport à la demande. Voilà. Alors, comment tout ceci va-t-il se combiner ? Je crois que personne n'en sait rien. Ce qui est clair, c'est qu'on va être obligé de changer de paradigme économique si on veut continuer à vivre prospère. Le modèle hérité de la révolution industrielle ne sera plus viable, vraisemblablement, dès la fin de la décennie 2020.
Et puis ça pose la question aussi, vous parlez de croissance démographique, mais les pays en développement, je pense notamment au continent africain, pour eux aussi, l'énergie, c'est le facteur clé de la croissance. Donc vous préconisez quoi ?
Ah bien sûr, la préconisation, c'est d'accélérer la transition vers les énergies renouvelables. C'est le seul modèle viable pour l'ensemble de l'humanité, pas simplement pour l'Afrique, mais aussi pour l'ensemble du reste de l'humanité. Donc le nucléaire ne peut subvenir qu'à une toute petite fraction de nos besoins en électricité, n'est disponible que dans un tout petit nombre de pays, et en plus il faut que ces pays soient politiquement extrêmement stables. Et par ailleurs, vous savez que le nucléaire a déjà perdu la guerre économique. De toutes les manières, le kilowattheure nucléaire est beaucoup plus cher aujourd'hui que le kilowattheure renouvelable. Solaire ou éolien, suivant l'endroit. Donc il n'y a plus de doute aujourd'hui sur le fait que les énergies de demain, mais ce sont déjà celles d'aujourd'hui, ce sont les énergies renouvelables. C'est ça qu'il faut développer en Afrique. Et en particulier pour l'Afrique, à mon avis, du solaire décentralisé, c'est-à-dire des petites centrales photovoltaïques qui permettent d'apporter l'électricité jusqu'au fin fond des villages de brousse.
Encore faut-il qu'il y ait assez de métaux rares pour équiper tout le monde.
Vous avez raison, ça c'est une autre partie difficile de l'équation. C'est-à-dire que malheureusement, les infrastructures nécessaires pour les énergies renouvelables sont plus gourmandes dans un certain nombre de métaux, par exemple le cuivre, que les infrastructures liées aux hydrocarbures fossiles. Et donc, dès aujourd'hui, les géophysiciens nous alertent sur le goulet d'étranglement auquel on pourrait se heurter dans la transition énergétique, parce qu'on va avoir besoin d'une quantité croissante, notamment de cuivre. Or, on sait dès aujourd'hui que la densité des réserves de cuivre disponibles aujourd'hui est en train de baisser dangereusement. Jusqu'à il y a une dizaine d'années, les réserves disponibles avaient une densité de 5%, ce qui veut dire que si vous vouliez 5 tonnes de cuivre, il fallait remuer 100 tonnes de terre. Aujourd'hui, les réserves qui restent n'ont qu'une densité de 1%. Donc elles sont 5 fois moins denses. Donc pour une tonne de cuivre, il faut 100 tonnes de terre, ce qui veut dire beaucoup d'énergie pour extraire le cuivre, beaucoup d'eau. Dans un contexte où on va avoir besoin de plus en plus de cuivre. Et donc il y a urgence aujourd'hui à ce que des ingénieurs inventent des substituts au cuivre pour les usages industriels du cuivre et à ce qu'on fasse un usage très très modéré du cuivre pour le garder pour les infrastructures liées aux énergies renouvelables.
Un chantier immense donc, et ce n'est qu'un des défis parmi tous ceux que nous devons relever dans les années qui viennent. Il y en a beaucoup d'autres, nous allons en parler, mais pour l'instant je vous propose une petite pause avec Pigeon John, Enjoy the Trees sur RFI.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr. Inglewood Skate Door. Hey man. Talk to me. Man, I couldn't even meet you. I done slept all day. Barbecue at Venice Beach, showed up with the Alizé and a little firecracker that I met in San Jose. And we don't sweat a thing, cause Quentin's on his way. Half of my homies here is ballers, I mean making 20 grand. All we is indie rappers, all we see is raised hands. We some ex-skater innovators, glory to the Lord. All the things I got now came from my skateboard. I had to breathe for a minute, hold for a dime. First one to finish, we'll pause for a rhyme. I saw my whole family all around me look right in my eyes and say, enjoy the trees. I let it go, go, I let it go. I had to pull it slow, no one's knocking at my door. A little bit of weed, some speed, some rock and roll. Pack all my little things up and jump on the road. I got a hot dog in my pocket and I don't even care. See, we roll into the mall so we can buy some night airs. Afterwards, we get some numbers, catch a movie, get a fade. Cause tonight we going out so I can do my Eddie Kane. Cause I still got it in a shark skin suit, hanging with John Roop and drinking 180 proof in the parking lot, eating Mexican pizza. Stress, I gotta go, but it's really nice to meet you. Had to breathe for a minute, hold for a dime. First one to finish, we'll pause for a rhyme. I saw my whole family all around me look right in my eyes.
I enjoy the trees, I let it go, go, I let it go. I have to pull it slow, no one's knocking at my door. A little bit of weed, some speed, some rock and roll. Pack all my little things up and jump on the road. And it sounds like I had to breathe for a minute, hold for a dime. First one to finish, pause for a rhyme. I saw my whole family all around me, look right in my eyes and say enjoy the trees. I let it go, go, I let it go. I had to pull it slow, no one's knocking at my door. A little bit of weed, some speed, some rock and roll. Pack all my little things up and jump on the road.
Écoutez, c'est pas du vent sur RFI et vous avez bien raison. Nous sommes en compagnie de Gaël Giraud aujourd'hui, chef économiste à l'Agence française de développement. Gaël Giraud, il y a une prise de conscience plutôt récente sur les liens que l'on peut établir désormais entre la dégradation de l'environnement, l'émergence des conflits et l'immigration des populations. Monique Barbu, la secrétaire exécutive de la Convention des Nations Unies sur la désertification, l'a compris depuis bien longtemps. Elle nous en avait parlé lorsque nous l'avions reçue dans C'est pas du vent.
Le Nigeria, en 1960, c'était un pays, certes pauvre, mais qui vivait de son agriculture. L'agriculture du Nigeria, elle était dans le nord du Nigeria. C'était 90 millions, et c'est toujours 90 millions de personnes dans le nord du Nigeria qui vivent dans des zones rurales. Et à l'époque, le Nigeria non seulement nourrissait toute sa population, mais était exportateur net alimentaire dans le monde. Ce qui s'est passé, c'est que fin des années 60, on a trouvé du pétrole au Nigeria. Le pétrole, on l'a trouvé dans le sud. Et au Nigeria, beaucoup de gens ont considéré que ça y est, la richesse allait être là, que c'était plus la peine de tant s'intéresser à ces zones rurales du nord, puisque le développement au sud allait permettre la prospérité de tout le pays. Et donc, entre 1970 et aujourd'hui, il y a eu des énormes périodes de sécheresse, en plus dans le nord du Nigeria. Et la situation matérielle de ces 90 millions d'habitants du nord du Nigeria s'est fortement dégradée. Qu'est-ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont commencé à perdre leurs terres? Ils ont commencé à migrer vers l'est. L'est, c'est le lac Tchad, qui est, je le rappelle, partagé par quatre pays, qui sont le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Nigeria. Ils ont migré vers l'est parce que les terres étaient plus fertiles, puisqu'il y avait de l'eau. Mais il faut voir aussi que, par ailleurs, pour des tas de raisons, le lac Tchad, qui était d'une superficie de 24 000 km² dans les années 60, est aujourd'hui passé à 1 800 km². Et que la population autour du lac Tchad est passée de 22 millions à 37 millions dans le même temps. Donc il y a eu des conflits ethniques, des conflits d'usage de la terre, des conflits religieux, parce que ce ne sont pas tout à fait les mêmes religions. Il n'a pas fallu grand-chose, si vous voulez, pour que certains groupes puissent alimenter les rancœurs qui se sont créées pour créer la situation explosive que nous avons autour du lac Tchad aujourd'hui. Mais encore une fois, je ne dis pas que c'est la seule raison, mais c'est certainement une des raisons majeures. Al Gore, il a montré que sur la Syrie, ce qui s'est passé, qui explique en grande partie la crise actuelle, c'est que entre 2006 et 2010, vous avez eu les quatre années les pires de sécheresse qu'ait connue la Syrie. Cela a jeté 1 million de paysans dans la rue. Ils ont tout perdu. Et d'ailleurs, ils se sont retrouvés non pas dans les grandes villes, mais dans les villes de taille moyenne. Et ce million a colludé avec 1 million de réfugiés irakiens. Et tout d'un coup, dans des villes de taille tout à fait moyenne de la Syrie, vous vous êtes retrouvé avec 2 millions d'hommes qui n'avaient plus rien. Ni perspective, ni ressources, ni travail. Je ne sais pas dans quel pays ça ne crée pas une révolution.
Gaël Giraud, comment réagissez-vous à ces propos de Monique Barbu?
Je crois qu'elle a tout à fait raison. Maintenant, c'est un diagnostic qui est très partagé dans la communauté internationale. Le dérèglement climatique, généralement, et puis l'érosion de la biodiversité vont provoquer des déplacements de population massifs. C'est évident, vous avez plusieurs facteurs qui sont très très faciles à voir. Le premier, c'est certainement la montée des eaux, qui va détruire les littoraux de la quasi-totalité de la planète.
Ça a commencé dans le golfe de Guinée.
Ça a déjà commencé dans le golfe de Guinée. Ça a commencé tout autour du Bangladesh, du Vietnam. Le delta du Mékong est condamné à plus ou moins brève échéance. Bon. Vous savez que le scénario médian aujourd'hui de montée des eaux, c'est plus de mètres à la fin du siècle. Hein. Plus de mètres, parce que la calotte glaciaire ouest de l'Antarctique fond beaucoup plus vite que ce qu'on pensait précédemment. Ça veut dire qu'à la fin du siècle, New York est sous l'eau. Donc là, il va y avoir forcément des déplacements de population massifs.
Or, c'est 70%,
voilà,
de, la
70% de l'humanité vit sur des littoraux. Bon. Et pour reprendre l'exemple du Vietnam, le grenier à riz du Vietnam se trouve dans le delta du Mékong. Donc la population elle-même va devoir migrer, se réimplanter ailleurs, faire du riz ailleurs. Donc ça va être des problèmes assez colossaux. Ça, c'est un premier aspect de la difficulté. Deuxième aspect, la fonte des glaciers, en particulier dans l'Himalaya et dans les Andes, qui fait que les grands fleuves vont s'assécher dans les années qui viennent ou les décennies qui viennent. Yangtze-Kiang, Gange, Indus. Et donc toutes les populations qui vivent de l'agriculture sur les rives de ces fleuves-là vont devoir soit inventer une agriculture beaucoup plus économe en eau, dans un premier temps, et ensuite, forcément, bouger pour aller trouver de l'eau ailleurs. Voilà. Et donc, ces migrations ne vont pas forcément atterrir en Europe. Il ne faut pas non plus qu'il y ait une récupération politique pour agiter les spectres de hordes de migrants qui viendraient frapper aux portes de l'Europe. Même si la politique européenne aujourd'hui reste très très timide dans l'accueil des migrants, je crois qu'il faut éviter à la fois la manipulation politique du phénomène et en même temps une naïveté crasse qui ferait qu'on oublierait que les migrants au XXIe siècle, vont majoritairement être des migrants climatiques. La Banque mondiale a sorti un rapport il y a quelques semaines qui chiffre à 143 millions le nombre de migrants climatiques d'ici 2050. C'est peut-être même un chiffre relativement optimiste.
Alors vous parliez de l'Asie, mais en Afrique aussi la situation est complexe. On le voit en Afrique de l'Est et aussi de plus en plus en Afrique de l'Ouest.
Oui, c'est évident que la zone sahélienne est une zone où il va y avoir d'énormes migrations, probablement des migrations sud-sud, donc d'Est en Ouest, parce que ce qui se passe aujourd'hui dans la corne Est de l'Afrique, malheureusement, menace aujourd'hui de s'étendre sur la totalité de la bande sahélienne, c'est-à-dire une raréfaction de plus en plus dramatique de l'accès à l'eau potable pour l'ensemble des populations qui sont là. Or, l'humanité peut vivre en se privant de beaucoup de choses, mais pas d'eau.
Alors d'où le rôle essentiel d'une banque de développement comme l'AFD, parce que l'objectif finalement c'est que les personnes n'aient plus envie de partir de chez eux.
Alors c'est pas forcément ça l'objectif, parce qu'il n'y a aucune raison de pouvoir priver quelqu'un de la joie de pouvoir se déplacer.
De partir contraint et forcé.
Ah, voilà, la migration forcée. Donc il faut déjà faire une distinction entre les migrants globalement et les migrants forcés et évidemment les réfugiés politiques. C'est trois catégories de personnes complètement différentes. Ensuite, malheureusement, comme vous le savez, l'aide au développement ne fidélise pas forcément les populations. Dans un premier temps, au moins à court terme, l'aide au développement rend au contraire plutôt capable une certaine classe moyenne d'aller migrer si elle veut migrer. Donc on ne peut pas non plus assimiler complètement l'aide au développement à la boîte à outils ou le couteau suisse qui permettrait de faire en sorte que, je dis les choses de manière très triviale, tous les Maliens restent chez eux. Et on ne peut pas assimiler l'aide au développement à ça. Maintenant, évidemment que si les populations arrivent à prospérer dans un pays, l'envie de partir sera de plus en plus faible, ça c'est évident. Mais c'est un processus de très long terme. Donc nous, on y contribue, on essaye surtout à l'Agence française de développement de faire en sorte que les conditions de vie restent humaines et dignes dans une zone aussi bousculée que le Sahel, qui va connaître des bouleversements climatiques majeurs. L'Alliance Sahel met les bouchées doubles aujourd'hui pour essayer de proposer des solutions pour que les populations paysannes en particulier souffrent le moins possible du dérèglement climatique.
Quel type de solution ?
Alors, vous avez toute une série de solutions liées à la réhabilitation des sols eux-mêmes pour qu'ils puissent conserver une productivité qui est en train de chuter dangereusement à cause du dérèglement climatique, de l'érosion des sols et de la désertification. Ça, c'est un premier aspect. Vous avez un deuxième aspect qui est un usage plus intelligent de l'eau pour l'agriculture. Ça passe par exemple, les techniques de riziculture intensive, qui sont beaucoup plus économes en eau. Et puis, des techniques pour récupérer l'eau de pluie de manière beaucoup plus efficace et réussir à capter l'eau, même lorsque, par exemple, le rythme de la mousson, la saison des pluies en Afrique, est complètement perturbé par le dérèglement climatique. Cette année, par exemple, la petite mousson qui a lieu en ce moment n'est pas du tout au rendez-vous. Donc il y a un vrai problème de soudure qui va se poser pour toute une série de populations, notamment au sud du Tchad, que je connais bien, mais évidemment pas seulement au sud du Tchad. Donc là, il y a des enjeux de comment est-ce qu'on fait pour capter de l'eau. Donc nous, on est sur ces sujets-là. La très bonne nouvelle dans toute cette affaire, c'est qu'il y a énormément d'eau souterraine. Il y a beaucoup plus d'eau potable sous la Terre que à la surface de la Terre. Donc ça veut dire qu'on n'est pas forcément demain matin tous à court d'eau potable. Encore faut-il savoir où aller. Alors on a en France un ingénieur extraordinaire qui s'appelle Alain Gachet, qui a développé un procédé qui s'appelle WATEX, Water Exploration, qui permet de trouver des sources aquifères profondes jusqu'à moins 400 mètres. C'est un procédé qui est en fait copié de celui qu'il utilisait lui-même quand il était chez Total pour identifier des ressources en pétrole. Alors après, évidemment, c'est pas la fin de l'histoire, parce que même si on trouve une source aquifère d'eau potable à moins 400 mètres, il faut aller la chercher. Donc là, ça suppose des infrastructures aussi phénoménales que celles qu'utilisent les pétroliers.
De l'énergie,
etc. Donc c'est pas, si je pouvais me permettre ça, je dirais, la messe n'est pas dite une fois qu'on a trouvé l'eau. Mais si on sait qu'il y a de l'eau, au moins, l'espoir est permis et tout n'est pas perdu. Parce qu'il y a un certain nombre de situations dans lesquelles les sources aquifères dans lesquelles puisent les populations sont en train de s'épuiser. Un exemple, c'est Amman, en Jordanie. La population d'Amman puise dans une source aquifère qui est à moins 400 mètres aujourd'hui, mais qui ne se renouvelle plus, ou en tout cas beaucoup plus lentement que la vitesse à laquelle la population puise. Donc on sait déjà que d'ici 20-30 ans, cette source-là sera épuisée. Et donc la question aujourd'hui de la distribution d'eau potable à Amman se pose.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Si l'on prend un petit peu de hauteur, vous prenez la défense des biens communs. Vous n'êtes pas le seul, comme nouvelle approche économique plus durable que celle de la quête de la croissance infinie. Pour comprendre de quoi il s'agit, je vous propose d'aller dans la réserve transfrontalière du Grand Limpopo. C'est l'une des plus grandes réserves internationales d'animaux sauvages, à cheval entre l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et le Mozambique, qui partagent près de 400 km de frontières. La réserve nationale du Limpopo est côté mozambicain. Ce parc, fondé il y a un peu moins de 17 ans, tente de se développer grâce à l'aide internationale, notamment l'aide de l'AFD, dans un pays où les fonds publics pour la protection de la nature sont très rares. Et si le parc du Kruger, côté sud-africain, est une attraction touristique protégée jalousement, le parc mozambicain du Limpopo, lui, fait face à de nombreux défis, notamment la présence de communautés qui vivent à l'intérieur même du parc, créant des conflits entre hommes et animaux. Le braconnage endémique dans la région a également longtemps menacé la faune locale, mais la situation s'améliore peu à peu grâce aux efforts pour remodeler le parc et en faire un bien commun, justement, à protéger. C'est un reportage de Lisa Fabian.
Au petit matin, dans la brousse encore humide, un groupe d'aspirants rangers s'échauffe dans l'herbe haute. Ces jeunes viennent tout juste d'être recrutés par le parc du Limpopo pour renforcer la protection de la réserve. Engoncé dans son uniforme kaki, fusil à l'épaule, le chef ranger Samuel Chankwe surveille de loin l'entraînement matinal des nouvelles recrues.
Nous sommes au cœur du parc. Cette zone ici, c'est une zone de protection intensive. Nous nous battons contre le braconnage et la mise à mort des espèces de notre région.
Le parc sud-africain du Kruger n'est qu'à une dizaine de kilomètres de là. Une haute clôture démarque la frontière entre les deux pays. Mais cette protection partielle est poreuse et régulièrement traversée par les braconniers et les animaux sont censés circuler librement dans le parc transfrontalier du Grand Limpopo. Côté mozambicain, le camp des rangers est installé dans l'ancienne école de Massinger Velio. 300 familles vivaient dans cette communauté pauvre. En 2016, elles ont été déplacées à 75 km de là. 5 autres villages sont toujours implantés à l'intérieur de la réserve.
Nous n'avons pas de très bonnes relations avec les communautés qui vivent dans le parc, parce que certains habitants pratiquent le braconnage. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est difficile de comprendre et de travailler avec ce genre de personnes au sein du parc. Oui, il y a des gens dans ces villages qui continuent de braconner. Nous venons tout juste de mettre la main sur un fusil de gros calibre, à seulement 7 km d'un des villages.
Le principal objectif des responsables de la réserve du Limpopo est aujourd'hui de limiter les conflits entre les populations locales et les animaux du parc. Au-delà du braconnage, les cultures vivrières sont régulièrement menacées par les éléphants, le bétail est parfois dévoré par les lions. Peter Leitner de la Peace Park Foundation explique comment la réimplantation des communautés locales à l'extérieur du parc est devenue nécessaire pour le développement de la réserve.
Une partie importante de notre plan, c'est de dépeupler le parc pour que la vie sauvage puisse y revenir. C'est une nécessité si on veut développer le tourisme dans la plus belle partie du parc.
Une clôture de 54 km sépare le parc d'une zone tampon dans laquelle sont implantés une cinquantaine de villages. C'est là que les populations du parc sont déplacées progressivement, communauté après communauté.
Pour ces populations, le principal atout, c'est qu'elles pourront bénéficier d'un plan d'irrigation que nous mettons à leur disposition dans la zone tampon. Traditionnellement, ces gens dépendent des pluies pour cultiver. Maintenant, ils pourront directement pomper dans la rivière et irriguer leurs champs toute l'année. Cela peut leur permettre aussi de gagner un peu plus d'argent en vendant une partie de cette production.
Dans la zone tampon, la clôture de protection a entraîné une diminution des conflits entre les hommes et les animaux et le message environnemental commence à faire son chemin. Assis sous un arbre, le chef d'un des villages de la zone, Fernando Baloy, résume l'évolution des mentalités.
À l'époque où la réserve naturelle n'existait pas encore, on chassait les animaux sauvages pour leur chair. Mais quand le parc a été mis en place, beaucoup de villageois ont arrêté par peur des autorités. Les gens qui pratiquent le braconnage le font pour l'argent aujourd'hui. Moi, je pense que les animaux ne devraient pas mourir. Sinon, il n'en resterait plus aucun. Et les enfants de nos enfants ne les connaîtront jamais.
Dans l'école voisine, Mariama enseigne l'anglais. Comme les autres membres de la communauté, la jeune femme connaît les incursions des braconniers dans le parc.
Nous n'entendons pas vraiment parler ouvertement du massacre des animaux ici. Parfois, nous voyons un frère partir dans le parc et la famille remarque son absence. Pourtant, ils savent qu'il est interdit de chasser les animaux sauvages. Je pense que nous ne pourrions pas vivre sur une terre sans animaux. Nous devons les préserver.
La transformation du parc du Limpopo se fait lentement et la communication reste tendue avec les populations locales amenées à déménager. Mais la situation évolue positivement, le braconnage tend à diminuer et dans les villages désertés, la nature a déjà repris ses droits. Lisa Fabian, de retour du parc du Limpopo au Mozambique, RFI.
Un reportage réalisé par François Porcheron. Gaël Giraud, je rappelle que vous êtes chef économiste à l'Agence française de développement. On entendait bien dans ce reportage la difficulté de concilier développement et protection de l'environnement. On entend par exemple cette idée de déplacer les populations, de les enlever de leur terre où elles vivaient avant pour protéger la faune locale. Là, ça pose quand même un peu des questions d'éthique, de choix.
Oui, tout à fait. Je crois que la bonne réponse, c'est pas ça. C'est au contraire de faire l'expérience qu'on a faite en partie au Limpopo, qu'on fait tous les jours en Bolivie, en Amazonie, qui est que les populations locales, si elles n'ont pas un marché, disons, de prédation derrière, qui les incite à faire du braconnage, sont les meilleurs gardiens de la biodiversité locale.
Et c'est là où on rejoint la notion de bien commun.
Voilà, parce que, en fait, l'humanité, au fond, fondamentalement, depuis toujours, vit avec son environnement écosystémique dans un rapport de commun, c'est-à-dire de bien partager entre tous et avec un soin pour le renouvellement de la ressource. Tous nos auditeurs et nos auditrices qui ont vécu dans un village de brousse savent très bien que la forêt, c'est un bien commun. Je ne peux pas aller chercher une plante dont j'ai besoin pour des besoins médicinaux, par exemple, sans aller demander l'autorisation, en principe, au guérisseur du village. Donc, c'est-à-dire que je ne suis pas le propriétaire de la forêt. Personne n'est le propriétaire de la forêt. C'est un bien qui est partagé par tous. Même chose dans ce parc magnifique de Limpopo, sur lequel l'AFD est intervenu, sur lequel on a fait une évaluation remarquable que je vous encourage à aller voir, parce que c'est un film que vous pouvez regarder, donc c'est une évaluation filmée, où là, on a fait la même expérience. C'est-à-dire, il faut évidemment mettre fin au braconnage, et ça veut dire au marché derrière et à la demande de ce qui est braconné, mais ensuite permettre aux populations locales de s'approprier la réserve comme un commun, dont en fait, elle est le meilleur gardien.
Alors, c'est ça, la vraie solution. Aujourd'hui, vous parlez de bien commun comme étant une alternative à la notion de croissance infinie, etc. Qu'est-ce que ça veut dire en dehors de ce parc du Limpopo ?
Mais ça veut dire, par exemple, alors un autre exemple sur lequel on a beaucoup travaillé, nous, c'est l'accès à l'eau potable autour de la Méditerranée. Donc, comme je le disais tout à l'heure, d'ailleurs, les ressources aquifères s'épuisent. Si vous laissez une gestion privée de la ressource aquifère, c'est la catastrophe. Parce que vous avez un problème de passagers clandestins, tout le monde a intérêt à venir épuiser à l'insu des autres, etc. Personne ne porte la responsabilité de la préservation de la ressource. Si vous demandez à l'État tout seul de gérer le truc, ça ne marche pas, parce que les communautés locales ne sont pas connectées à l'État, parce qu'il ne sait pas comment faire, il met des taxes, mais ça ne marche pas. Bon. Ce qu'il faut faire, c'est créer une communauté locale qui est responsable de la gestion de la ressource et qui gère elle-même les droits d'accès différenciés à la ressource. Et l'expérience montre que ça marche. Même chose, par exemple, pour, je le disais tout à l'heure, la préservation de la biodiversité en Amazonie. Il y a des tas de projets locaux sur lesquels l'expérience qu'on fait, nous, c'est qu'il n'y a pas d'autre moyen que de demander à une communauté de gérer elle-même la ressource intelligemment. Si vous mettez les femmes dans le coup, ça marche beaucoup mieux, en général. Voilà. Et donc, ça veut dire faire confiance à la sagesse, finalement, collective des communautés locales. Et ce qui veut dire aussi pour nous, déplacer notre regard, les objets auxquels on est habitué, tous les bailleurs internationaux, c'est-à-dire les grands projets d'infrastructure, les barrages, les centrales, etc., vers les institutions, celles qui permettent de créer du collectif, de créer de la communauté autour des ressources rares qu'on a envie de préserver. Donc ça, ça veut dire qu'il faut des anthropologues autour de la table, il faut des gens qui sont des spécialistes de sciences politiques, des sociologues.
Et puis des budgets aussi adaptés à des petits projets, parce que ça, c'est l'un des gros problèmes de l'Agence française de développement et de toutes les banques de développement, c'est que, je ne connais plus les seuils, mais en dessous d'un certain nombre de millions, finalement, vous ne financez pas parce que ce n'est pas assez gros, quelque part.
Oui, parce qu'on est pris nous-mêmes, comme tous les d'ailleurs, par ces difficultés, je veux dire, faire un petit projet de 3 millions, ça prend autant de temps que faire un gros projet de 500 millions. Donc il y a des solutions quand même, hein. Par exemple, on a une initiative des petits projets dans le Sahel, ça consiste à financer avec un gros montant une ONG ou un pool d'ONG qui, elles, vont se charger de redistribuer
c'est
ça.
C'est le programme des petites initiatives,
voilà,
on en parle souvent dans cette
vidéo. Hein, qui, elles, vont se charger de redistribuer ça sous forme de petits projets. Donc il y a des solutions qui existent pour dépasser le problème de la bureaucratie et des petits projets. C'est ça qu'il faut multiplier. Parce qu'au fond, si on veut regarder en face la question de la biodiversité et de l'environnement, la réalité de la réponse, elle est toujours locale. C'est ça qui différencie, au fond, la biodiversité du climat. Le climat est un vrai problème global. En revanche, les problèmes de biodive sont les problèmes locaux. Et donc, pour ça, il vous faut majoritairement des petits projets. Et donc là, nous, on est en train d'inventer des solutions de ce côté-là. C'est-à-dire, comme je disais un petit peu, trouver des ONG ou des pools d'ONG qui sont capables d'aller sur le terrain et de gérer des tout petits projets. Et nous, on finance, en gros, l'ONG.
Autre enjeu essentiel, faire en sorte que les investissements, l'argent, irriguent les filières d'une économie durable. De ce côté-là aussi, ça bouge. Nous en parlons juste après une petite pause. On respire sur RFI avec Charles Brown, I Want to Go Home. Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI et vous avez bien raison, nous sommes en compagnie de Gaël Giraud aujourd'hui, chef économiste à l'Agence française de développement. Gaël Giraud, la Commission européenne vient de publier son plan d'action sur la finance durable. Nous allons en parler, mais voyons tout d'abord avec Anne-Catherine Husson-Traoré, PDG de Novetic, ce qu'est la finance durable.
Il y a très clairement eu une accélération de la COP21, c'est-à-dire que c'est depuis 2 ans où on voit de très grands acteurs prendre à bras-le-corps le sujet, et surtout avec une grille de lecture qui est la leur habituellement, c'est un, ce qui n'est pas vert est extrêmement à risque, et en particulier les énergies fossiles, parce que leur valeur apparente actuelle est assez phénoménale, leur danger est tout aussi phénoménal, et que donc le moment où on va se rendre compte que ce danger est tellement important qu'il faut les empêcher d'agir, alors à ce moment-là, elles ne vaudront plus rien. Donc là, il y a un risque de perte massive d'argent.
Oui, donc ce n'est pas de la philanthropie, c'est juste une prise de conscience du risque.
L'idéal, c'est d'avoir les deux, mais on ne va pas se raconter l'histoire, parce que vous ne croirez pas que les acteurs financiers se sont transformés en ONG environnementales par un coup de baguette magique. En revanche, ce qui est très efficace avec ce genre d'acteurs, c'est de leur expliquer que les modèles ne tiennent plus. Et donc, effectivement, il y a un modèle qui s'effrite d'un côté et il y a un modèle de l'autre qui, lui, est en plein développement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables sont très clairement un investissement plus que raisonnable parce qu'effectivement, ils rapportent. Investir dans un parc solaire en direct ou dans des éoliennes en mer, c'est extrêmement rentable. C'est ce que font les grands fonds norvégiens, par exemple.
Et ce n'est pas uniquement dans le domaine des énergies, d'ailleurs.
Non, bien sûr, parce que pour être à un monde à 2 degrés, il faut complètement changer le modèle dans lequel on est. Il faut que la transition concerne tous les secteurs, à la fois dans leurs produits, à la fois dans les façons de consommer. Ça concerne tout le monde et il faut tout changer. Et donc pour tout changer, ça suppose des moyens de financement colossaux, puisqu'il faut adapter les modèles, il faut adapter les usines, il faut adapter les produits, il faut adapter tous les systèmes, il faut arrêter de pêcher un saumon en Norvège, d'aller l'emballer en Chine et de le consommer en Espagne. C'est juste suicidaire. Mais pourquoi on fait tout ça aujourd'hui? Parce que ça coûte pas cher. Donc effectivement, pour changer de modèle, il faudra beaucoup d'argent. Et donc l'argent aujourd'hui, il est massivement présent sur les marchés privés. Et donc la logique de tout ce mouvement, c'est de réorienter ces énormes flux vers les petites rivières qui sont en train d'émerger et qui, elles, servent à sauver la planète ou à la protéger en tout cas.
Voilà, il faut changer, Gaël Giraud, les petites rivières en grands fleuves. Alors justement, la Commission européenne vient de publier son plan d'action sur la finance durable. De quoi s'agit-il ?
Il s'agit de fournir les bonnes incitations pour que la sphère financière arrive à mettre l'argent sur la table qui est nécessaire pour financer la transition écologique. Les sommes sont colossales. Les montants nécessaires sont estimés entre 50 000 milliards et 90 000 milliards de dollars. Donc pour rappel, le PIB mondial, c'est 70 000 milliards. Donc ça veut dire qu'on est quelque part de l'ordre de grandeur du PIB. Qui va mettre l'argent sur la table? Le secteur privé est très endetté. Les dettes du secteur privé dans le monde aujourd'hui, c'est 110 000 milliards. Hein, donc c'est beaucoup plus que le PIB. Le secteur public est assez endetté, un peu moins quand même, heureusement, 60 000 milliards. Donc tout ceci fait qu'on est dans un contexte où il y a beaucoup de dettes. Donc c'est pas facile de sortir l'argent. Et en même temps, il n'y a jamais eu autant de capital qui circule autour de la planète, mais qui s'investit malheureusement dans des projets spéculatifs sur les marchés financiers qui ne permettent pas de financer la transition. Et donc la grande question, c'est comment vous remettez les tuyaux au bon endroit pour que le capital déjà existant soit réorienté vers les financements verts, pour qu'on arrête de financer des investissements bruns, parce qu'il faut mettre fin à ces investissements bruns, c'est ce qu'on entendait à l'instant. Hein. En fait, il faudrait fermer dès aujourd'hui toutes les centrales à charbon. On sait que si on laisse faire dans les 5-6 années qui viennent, on laisse ouvrir les centrales à charbon qui sont déjà prévues en Asie du Sud-Est et en Afrique, notamment en Afrique du Sud, on peut oublier tout de suite l'objectif des 2 degrés, c'est trop tard. Voilà. Donc il y a un enjeu massif aujourd'hui à mettre fin à toute subvention aux fossiles, en particulier au charbon, et à réorienter les financements vers les financements verts, en particulier vers les énergies renouvelables et les infrastructures qui leur sont associées. Parce que, si vous voulez, la bonne nouvelle dans la transition, c'est qu'on n'a pas besoin d'une révolution technologique pour faire la transition écologique. On n'a pas besoin d'un deuxième Einstein, on n'a pas besoin d'avoir trouvé la grande unification entre la relativité générale et la mécanique quantique. Il y a quelques obstacles techniques. La voiture à hydrogène et tout ça, c'est pas encore complètement fait, mais enfin, ce sera fait dans les années qui viennent, il n'y a aucun doute là-dessus. En revanche, ce qui manque, c'est le financement. Quelles sont les solutions? Il y en a plein, mais on peut les catégoriser en grandes familles de solutions. Il y a une première famille qui est fournir les bonnes incitations au secteur bancaire. Là-dessus, à mon avis, ce qu'il faut privilégier, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui en anglais le Green Supporting Factor, c'est-à-dire le fait que vous donniez un bonus aux banques qui font du crédit vert en termes de capitaux qu'elles doivent immobiliser à chaque fois qu'elles font un crédit. Et puis, vous leur mettez aussi un malus si elles font du crédit brun. Et donc, un système de bonus-malus, ça fournit une incitation très forte au secteur bancaire à devenir vertueux, c'est-à-dire à accorder du crédit du côté du vert. Ensuite, vous avez le secteur assurantiel. Les assurances aujourd'hui commencent à prendre la mesure de la gravité du dérèglement climatique et de l'érosion de la biodiversité. Elles savent aujourd'hui qu'un monde à plus 4 degrés n'est pas assurable. Elles commencent à compter et elles voient qu'en 2016, l'ensemble des événements climatiques extrêmes, c'est-à-dire les typhons, les inondations, les sécheresses, ça a coûté plus de 175 milliards à l'ensemble de la planète et que là-dessus, il y en avait un tiers qui était assuré. Et ça va continuer dans les années qui viennent. Puis il y a un troisième grand chapitre qui est les banquiers centraux. Les banques centrales, ça ne vous a pas échappé, sont capables de créer des milliers de milliards pour sauver les banques. Et donc, il y a un certain nombre d'économistes, dont moi, qui depuis des années disent « Mais pourquoi ne créerait-on pas des milliers de milliards pour sauver la planète ?» Pour donner un exemple, hein, la BCE, la Banque Centrale Européenne, depuis 2014, a créé quelque chose comme 2300 milliards pour sauver les banques européennes. La Fed, aux États-Unis, qui est la Banque Centrale des États-Unis, crée 1000 milliards chaque année pour venir au secours du secteur bancaire américain. Ça, ça veut dire qu'on est capable d'utiliser la planche à billets, et c'est légitime pour sauver les banques, et on en a besoin. Mais qu'est-ce qui nous empêche de faire de même pour sauver la planète ? Vous voyez, là, il y a une vraie question.
Voilà. Alors, pourquoi ça ne se fait pas ?
L'une des raisons centrales, c'est que beaucoup des amis qui travaillent dans les banques centrales ou à la Commission européenne restent persuadés que la question écologique et la question du climat sont des questions sectorielles, parmi d'autres.
Ça ne concerne que l'énergie, par exemple ?
Par exemple, alors ils se disent, voilà, ça concerne un secteur de l'économie et je ne vois pas pourquoi moi, banquier central, qui fait de la politique monétaire et qui donc doit avoir un point de vue global sur l'économie, pourquoi je favoriserais un secteur sur un autre. Et la Commission européenne va vous dire immédiatement, mais il y a une distorsion de concurrence. Par exemple, si vous favorisez la rénovation thermique des bâtiments, alors vous allez créer des distorsions de concurrence, vous allez créer des défaillances de marché parce que vous allez favoriser un secteur contre un autre. Ma réponse à ceci, c'est... En réalité, prenez conscience du fait que l'écologie et le climat sont des problèmes transversaux qui concernent tous les secteurs de l'économie. Toute l'économie, dans tous les pays, va être affectée par le dérèglement climatique et l'érosion de la biodiversité. Et c'est une responsabilité énorme aujourd'hui que de refuser de financer ce dont toute l'humanité a besoin.
Donc il faut quoi ? Un sursaut politique ?
Alors, il y a une prise de conscience aujourd'hui que je vois grandissante du côté des industriels. Par exemple, en France, dans les conseils d'administration des grands groupes du CAC 40, on commence à s'interroger, on prend conscience de la gravité des conséquences du dérèglement climatique. Et dans le même temps, on a compris que le business de demain, ce sera un business lié à un monde décarboné. Du côté anglo-saxon, dans les conseils d'administration, on commence à trembler parce qu'on a compris qu'on porte un risque juridique. Vous avez vu par exemple que la ville de New York, le maire de New York, a commencé à intenter des procès à un certain nombre de majors pétroliers.
Celle de San Francisco aussi.
Voilà, au motif qu'ils polluent. Donc ça veut dire que les administrateurs qui siègent au conseil d'administration ont une responsabilité qui, dans la common law anglo-saxonne, est une responsabilité pénale. Donc ils peuvent être maintenant accusés. Donc ils commencent à trembler. Là où il n'y a pas cette prise de conscience, c'est du côté du monde de la finance, on pourrait dire, en dépit d'un certain nombre de prises de parole très fortes de quelqu'un comme McCarney, qui est le gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, qui dès 2015 a dit « le problème central de la stabilité financière aujourd'hui, c'est le climat et la biodive ». Bon. Alors évidemment, il y a quelques banques particulièrement vertueuses, lucides et prophétiques. Je pense à Mirova, qui est la filiale investissement socialement responsable de Natixis. Maintenant, tout le monde n'est pas au diapason sur cette question. Et je crois que là, on a un train de retard du côté de la sphère financière. Et puis, il y a la sphère politique. Et là, évidemment, il y a une espèce d'arbitrage de très court terme qui est fait, malheureusement, entre la popularité instantanée de tel ou tel leader politique et le gain électorale que peut avoir une prise de position très forte en faveur de la transition. Je crois qu'évidemment, on a tous une responsabilité politique au sens large, au sens de la cité, de la police, qui est de viser l'intérêt général des générations futures et donc de mettre en œuvre dès aujourd'hui la transition de manière extrêmement volontariste.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Gaël Giraud d'être passé dans C'est pas du vent. Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde de cette émission et à vous d'être fidèle à ce nouveau rendez-vous. N'oubliez pas, vous pouvez nous réécouter sur notre application Pure Radio ou sur le site internet de RFI, onglet émission. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve la semaine prochaine, même planète, même heure.